Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de l'Actuality sur PFM 99.9, l'émission de débat des lycéens sur des thèmes de société, sur des thèmes variés. À la rentrée, il y a eu beaucoup de lycéens qui ont afflué dans l'équipe pour essayer de débattre ensemble, et donc ce qui a contribué à la formation d'une deuxième équipe, et donc à vous l'antenne, la deuxième équipe, c'est à vous qu'on donne l'antenne aujourd'hui, à vous de jouer.
Bonjour à tous et bienvenue sur PFM 99.9. Et donc voilà, je suis Loïc Petitpré, hein, il semblerait que je présente aujourd'hui. À ma droite,
Aurélie.
Et encore à droite,
Anna.
Et encore à droite, en face de moi,
Ronan.
Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons partir.
T'as oublié de présenter la régie.
Ah oui.
Un manque de respect total.
Oui, je ne vous respecte pas. Et à la régie,
Théo, bonjour.
Bonjour Théo. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des sans domicile fixe. Hein, vous savez bien que en cette saison hivernale, c'est très compliqué de dormir dehors, et notamment plus précisément à cause des infrastructures mises en place par les mairies des grandes villes qui tendent à faire fuir, enfin à empêcher les SDF de dormir dehors. Ronan, tu as quelque chose à nous dire?
Oui, j'ai quelques chiffres concernant les SDF. Excusez-moi. Alors, une enquête en 2001 de l'INSEE a dénombré 86 100 domiciles en France. Puis une enquête en 2012 en a dénombré 133 000. Donc c'est en augmentation, dont 10% sans abri. Donc c'est quand même une quantité assez importante de SDF qui est en constante augmentation. Et selon certains chiffres, il y aurait aussi une majorité de SDF qui serait entre 31 et 51 ans. Donc c'est quand même, une grande partie de trentenaires et de cinquantenaires qui sont dans la rue. Et jusqu'à un peu plus de 20% de jeunes quand même.
Ouais.
Voilà. Donc c'est quand même des chiffres relativement attristants, je trouve.
D'ailleurs, on peut remarquer, comme je le disais auparavant, dans les grandes villes, on place par exemple des remparts dans les bancs, sur les bancs pour éviter que certaines personnes puissent dormir dessus, ou on met des pentes par-ci par-là, ou on décore avec soi-disant de l'art moderne en mettant des pics par-ci par-là.
Ou par exemple, je sais que sur Arras, au niveau du Furet du Nord, ils ont installé une grille, il y avait des marches juste à côté du Furet et il y avait pas mal de SDF qui étaient là. Et ben du coup, maintenant, il y a une grille, donc ils ne peuvent plus rester là. Voilà, c'est tout.
Ouais, donc on voit bien que c'est la tendance actuelle. Est-ce que ça ne serait pas une démarche, enfin... je ne sais pas si vous connaissez le terme, la gentrification, c'est-à-dire dans les villes, il y a une partie un peu plus riche et aisée qui est nettement séparée que, enfin, comment dire, que des quartiers
oui,
plus sensibles.
C'est la séparation des
exactement.
Populations. Quoi.
Ouais. Est-ce que ça ne serait pas juste repousser un peu les sans-abri dans des...
Et puis les pauvres, quoi, ils ont plus de lieu où dormir. Enfin, il y a des installations pour ça, mais comment dire... C'est pas forcément idéal.
J'ai vu il y a pas longtemps à Paris quelqu'un qui en avait marre qu'il y avait des sans-abri qui squattaient devant son garage, et il avait construit lui-même une installation qui jetait de l'eau de l'eau froide sur les gens qui restaient trop longtemps à l'entrée. C'est assez dangereux.
T'imagines le gars qui fait du lèche-vitrine et qui se prend le seau d'eau alors qu'il...
Non, c'est une entrée de garage. Et justement, ça avait fait scandale parce que ça peut être dangereux avec le froid. C'est... Oui, waouh.
Merci Loïc, c'est vrai que l'eau ça mouille et comme ça, plus le froid.
Et mais encore ouais. Plus, l'eau froide, ça, voilà, ça fait froid.
Ouais.
Non mais avec le froid, on peut mourir.
Et je sais, et c'est ça qui est dramatique. Le problème, c'est qu'on essaye plutôt de les faire fuir plutôt que de régler le problème.
Exactement.
Comment dire, je crois que Macron avait fait une promesse de campagne concernant les SDF.
Mmh.
Et il voulait que... qu'en tout cas avant l'hiver, qu'il n'y ait plus de SDF dans les rues et qu'on puisse donc les accueillir sûrement grâce à des infrastructures, des maisons d'accueil, etc. Et bah pour l'instant, malheureusement, quand on va dans la rue, on trouve toujours des SDF. Et je dirais même, ils sont en augmentation, en tout cas selon les chiffres. Et même, on peut le remarquer dans la rue, même dans des quartiers où il y a une assez grande animation, malheureusement, moi j'en vois de plus en plus. Par exemple, près des gares, dans les rues commerçantes, etc.
Après, je pense qu'on ne peut pas réduire toute la misère du monde en quelques mois. C'est quand même assez compliqué. Et il y a pas mal de SDF aussi qui refusent l'aide des gens. Donc ça aussi, c'est quand même assez paradoxal, mais ça existe, des gens qui ne veulent pas se faire aider.
Et pourquoi ils ne voudraient pas se faire aider
Ils ont certainement honte, je pense.
Ouais.
Oui, et puis ils veulent faire preuve d'autonomie, essayer de se débrouiller tout seul, par fierté peut-être, je ne sais pas, mais voilà.
Faudrait, ouais.
En tout cas, ce qui est à relever, c'est que ça augmente, alors que le but, c'était de les réduire. Alors, à la limite, ne pas pouvoir, enlever la pauvreté, c'est pas non plus, on va pas les blâmer de ne pas avoir éradiqué toutes les guerres dans le monde, etc. Le but, c'est d'essayer au moins de faire des progrès là-dessus. Et même si on ne leur donne pas directement une aide importante, au moins faire en sorte que ils ne meurent pas seuls dans la rue, sans nourriture et en plus sans les faire fuir du peu d'endroits où ils peuvent se conforter en s'asseyant, etc.
Et donc, selon vous, comment du coup on diminuerait ce taux de sans-abri en France et pas uniquement dans certaines zones ?
Il n'y a pas de miracle, ça peut... On peut aller à la source et parler du système un petit peu bancaire. Parce que s'il y a beaucoup de SDF, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, sont ruinés et sont obligés de tout vendre, ou on leur prend carrément leurs biens et ils en finissent à la rue. Et s'ils n'ont pas une famille à laquelle ils peuvent se rattacher, forcément, ça devient compliqué. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la source, une des sources du problème. Mais après, pour régler ce souci, je sais pas s'il y a une solution miracle, mais bon, les maisons d'accueil, bien sûr,
oui.
Augmenter
la
capacité d'effectifs, demander aux gens
comme Emmaüs,
voilà, de continuer leur combat et même d'encourager de nombreuses personnes à aider ces associations qui essayent un petit peu de rendre les villes meilleures. Mais oui, je ne sais pas si vous avez des idées particulières.
Après, peut-être surtout les aider dans tout ce qui est démarches administratives pour retrouver un boulot, un logement, enfin quelque chose.
Ouais, parce que sans logement, pas de travail. Et donc, pour qu'ils puissent se réintégrer à la société... la communauté, il faut quand même qu'ils puissent donner une adresse. Ouais, donc c'est vraiment très compliqué, je pense.
Après, moi, je pense que c'est aussi un effort de la société à faire, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette peur des SDF. C'est sûr que dans un CV, dire qu'on n'a pas de domicile fixe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau à dire lors d'un entretien d'embauche, voilà. Et ça peut... On peut avoir des a priori à ce niveau-là, alors que parfois, ils cherchent vraiment... Alors, c'est sûr qu'il y en a qui, avec l'argent qu'on donne dans les rues, s'achètent de l'alcool, voilà, mais c'est pas tous des cas comme ça. Et la plupart, cherchent vraiment à s'en sortir. Et du coup, par rapport à ces a priori, mais même nous, dans la rue, on passe... la plupart des gens ne s'arrêtent même pas, ne les regardent pas. Et je me demande si ça commence pas par une certaine peur des SDF aussi, parce que...
Plus qu'une... Enfin, je dirais plutôt une gêne. Nous, on se promène, on rigole, on est à plusieurs, on est habillés, on rentre chez nous tranquille, on se dit « Ah, j'ai faim, je vais aller manger chez moi. » Alors que quand tu passes dans la rue, tu les vois par terre, tu les vois parfois avec un regard vide à regarder ailleurs. Et tu te dis peut-être qu'ils te jugent et qu'ils se disent « Pourquoi ils ne donnent pas de l'argent alors qu'il en a ?»
On devient
et
mal à l'aise.
C'est quelque part, ça instaure une sorte de gêne. Et donc forcément, on tourne le regard, on n'ose pas les regarder et même les aider.
Oui, voilà. Et toujours dans cette gêne que créent les SDF lorsqu'on les voit, c'est pour ça que, par exemple, les magasins, tout ça, n'aiment pas que ces SDF s'installent pas loin parce que ça leur fait une mauvaise publicité, tout ça. Alors que si certaines boutiques pouvaient les aider à s'en sortir, peut-être que ça irait mieux. Ne serait-ce que, par exemple, une boulangerie qui lui donne un petit pain ou quelque chose.
Bah, je crois que, désolé de te couper, il y a d'ailleurs une nouveauté mise en place dans certaines villes avec un sticker collé aux boulangeries et tout ça. Et avec ça, les SDF, ils savent qu'ils peuvent aller demander un petit truc à manger. Ou... Il me semble que j'ai vu ça.
Ouais, c'est possible. Hein. Puis moi, ça ne m'étonnerait pas que justement certaines boulangeries
oui,
donneraient.
Mais j'avais vu une vidéo comme ça sur Facebook, de nombreuses vidéos qui circulent. Alors je ne sais plus dans quel pays comme ça, mais la générosité des gens était incroyable. C'est une expérience sociale, donc quelqu'un qui va demander juste un petit pain ou un croissant, alors quelqu'un qui n'est absolument pas SDF, mais qui se fait passer pour quelqu'un comme ça. Et les gens, il n'y a aucun souci, ils donnaient sans problème. Et même lorsqu'on leur disait que bah, c'était juste une expérience sociale et qu'ils pouvaient reprendre le petit pain qu'on lui avait donné, il dit « Non, je te l'ai donné, garde-le. Voilà. » Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et voilà.
Surtout que dans les boulangeries, il faut dire qu'ils ne vendent pas tout leur stock. Et que par exemple, au niveau des brioches...
Il y a beaucoup de gâchis, oui. Ouais.
Moi, j'ai mon grand-père qui va souvent dans une boulangerie. Et à cette boulangerie, une fois qu'il a acheté son pain, en général, c'est quand même... En début d'après-midi, ils savent qu'il n'y a plus énormément de gens qui vont venir. Et donc, le surplus de brioches qu'ils ont, ils en offrent une de temps en temps, comme ça. Et je me suis dit que, ouais, c'est vrai que ça peut être une solution si on développe aussi ça. Parce que, je ne sais pas, je connais pas vraiment ce système et je ne sais pas si c'est très développé. Mais en tout cas, si ça ne l'est pas, ça peut être une solution aussi. En tout cas, pour les aider à manger. Par contre, ça ne les abrite pas.
Ok. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter peut-être quelque chose avant de...
Je ne pense pas. Du coup, on va laisser la parole à la régie. Théo, c'est à toi.
Et donc là, on va tout de suite écouter Not Afraid de Basic Tape. Shining down on my body, these waters set me free. After winter's heavy hands weighing on me, new horizons bring relief. I'm not falling, no, I'm gonna rip through. I won't sit down for that. I'm not ready to hang it up. I'm standing up to.
I'm not afraid.
l'actualité sur PFM 99.9. On se retrouve pour une seconde partie de débat avec l'équipe B, puisqu'il y a beaucoup plus de lycéens qui ont afflué pour débattre avec l'actualité. Et donc, à vous la parole, l'équipe B. À tout de suite sur PFM 99.9.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans PFM avec l'actualité. Donc ici, Aurélie et à ma gauche,
Loïc.
À ma droite,
Anna.
Et encore à droite,
Ronan.
Bien, et aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très florissant en ce moment, c'est la pêche électrique.
Très récent, effectivement, parce qu'elle vient d'être interdite, il me semble. Hein. Oui. Donc la pêche interdite, en effet, est une méthode qui est...
La pêche électrique, pas la pêche interdite.
La pêche... Ah, j'ai dit interdite. Oui. Ce n'est pas grave. La pêche électrique, donc, a fait scandale, en effet. On retrouvait les poissons avec leur colonne vertébrale fracturée. De plus, les poissons qui survivaient avaient des soucis au niveau de la reproduction, etc. Donc, c'était vraiment un danger pour la biodiversité sous-marine en général. Et en plus, il y avait de fortes inégalités. Par exemple... les pêcheurs néerlandais étaient beaucoup, beaucoup plus rentables que les pêcheurs français, par exemple. Donc, vous, est-ce que vous avez un avis, peut-être, sur...
Déjà, il faut rappeler, enfin, faut dire ce que c'est, la pêche électrique.
Oui.
Concrètement, c'est on balance de l'électricité dans l'eau, on foudroie les poissons pour qu'ils remontent.
Et
ouais, ça me fait un peu
le problème, penser. C'est que ça ne fait aucun tri dans les poissons. Donc
déjà,
même ceux qui ne sont pas consommables ou qui ne sont pas suffisamment, par exemple, gros pour être consommés, voilà, meurent aussi. Donc c'est, déjà, il y a du gâchis énorme et l'écosystème du coup, est forcément affaibli parce que du coup, il n'y a plus rien.
Ça me fait penser aux armes chimiques, en fait. On balance un truc bien efficace.
C'est la bombe atomique version aquatique.
Ah non, mais c'est, pour moi, c'est dramatique. C'est déjà que de base, on assassine une... quantité assez importante d'animaux. Alors en plus, si on utilise des moyens pareils...
Oui, mais est-ce que les autres moyens sont un peu pareils, en fin de compte? Ils ne font pas le tri. Les chalutages en eau profonde qui raclent les fonds marins, etc.
Ah oui, aussi le procédé qui racle les fonds marins, pour ça non plus, je suis pas...
Ah, mais
je suis pas pour.
Mais
dans tous les cas,
contre.
En prenant les poissons encore vivants avec des filets et ensuite en essayant de les trier, je pense que c'est déjà une meilleure technique, même si de base, je suis pas trop pour ce genre de choses non plus. Mais les foudroyer, quand même.
C'est inhumain.
Ah non, c'est tout à fait humain et c'est ça le problème, c'est que... C'est effroyable, surtout.
Et donc, il y a une loi qui a été proposée au Parlement européen pour interdire complètement la pêche électrique. Donc, il devrait être voté dans ces quelques mois, mais ça risque de faire beaucoup de débats par rapport aux pays du Nord.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est eux qui rentabilisaient le plus avec cette méthode. Hein.
C'est une question économique. La question éthique, malheureusement, elle a du mal à s'imposer.
Mais même dans les autres méthodes un peu plus classiques, niveau tri, par exemple dans la pêche de la crevette, 60% de ce qui remonte n'est pas de la crevette.
Alors, en même temps, on peut pas trier, c'est pas le filet
faire
qui
le tri,
va.
C'est très dur, mais de là à tout exterminer pour récupérer seulement le meilleur, c'est un peu extrême quand même.
C'est vrai qu'on critique les frappes chirurgicales, mais c'est peut-être mieux que s'ils disaient, s'ils disent, par exemple, à la guerre qu'ils font une frappe chirurgicale, bien sûr, on n'y croit pas, on peut pas être très précis avec une bombe. Mais même si c'est une litote, au moins ça nous montre qu'ils bombardent pas en balançant des milliards de bombes sur la ville.
J'aime cette comparaison.
Ouais, j'ai essayé de trouver un truc, même si là c'était pas très pertinent et pas très intéressant. Au moins les gens voient peut-être ce que je veux dire.
Non, parce que c'est sûr que dans l'idéal, le mieux ce ne serait de pêcher que ce qui nous intéresse. Mais c'est impossible. Mais au moins de limiter le gâchis. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a aucune limite, étant donné qu'il n'y a aucun tri de fait et que... Il y a tout qui meurt au final.
Parce que déjà, si tu les pêches dans un filet, tu peux jeter à la mer tout ce que tu as pêché. En général, c'est encore vivant. Hein. Tu les jettes.
En général.
Ouais, non. Non, mais c'est déjà mieux que si tu extermines tout le monde et
sûr.
Que les survivants. Non, jeter de la foudre dans l'eau.
Non, puis en plus, je suppose que ceux qui ne les intéressent pas, ils les laissent dans l'eau.
Voilà.
C'est un peu glauque. T'imagines, tu vas à la mer, tu vois ton poisson qui est mort, là, qui flotte.
C'est un peu comme la pêche au requin ou à la baleine, on prend ce qu'on veut dessus et puis on rejette
rejette le cadavre. On le rejette encore vivant, hein, parce que sans ses allons, sans tout ça, il est encore vivant et il meurt au fond de la mer.
Malheureusement, c'est un cadavre ambulant arrivé à un moment.
C'est un peu
dégueulasse.
Ouais, dégueulasse, on peut le dire.
Après, on peut aussi vite fait aller sur la cause animale, mais bon, là, on ira encore loin. Là.
Alors justement, en parlant de cause animale... même avant toutes ces techniques, enfin avant la pêche électrique, on voyait déjà que les océans se vidaient, hein, on perturbait complètement la chaîne alimentaire. Est-ce que le problème, ça ne serait pas non pas la méthode, mais plutôt notre consommation de poissons?
Bien sûr.
Oh, petit débat vegan.
C'est au niveau de la consommation globale.
Mais je suis tout à fait d'accord. Oui.
C'est si on pêche autant de poissons et qu'on tue autant de bêtes, c'est parce qu'on en mange autant. Forcément. S'il y avait une réduction, après je parle surtout pour nos pays occidentaux qui n'ont pas des besoins majeurs en nourriture, il n'y a pas de malnutrition importante. Là je parle vraiment pour les pays qui n'ont pas besoin de cette énergie animale. On en mange trop, c'est sûr.
Et très bien. Et est-ce que du coup la solution, ça serait soit diminuer notre consommation, ou est-ce que ça ne pourrait peut-être pas être les poissons, les élevages de poissons justement?
Oui, les élevages de poissons, oui et non. Parce qu'il faut savoir que les élevages de poissons, c'est pas forcément non plus l'idéal, mais ce serait peut-être mieux quand même.
Pourquoi ce n'est pas l'idéal?
Vu qu'on nourrit des poissons avec des poissons, c'est assez glauque.
C'est vrai.
Mais mon cher ami Loïc, vois-tu les vaches?
Non mais merci, mais je pose des questions.
Non, mais
vas-y.
Justement, c'est intéressant, on peut commencer à lancer le débat. Vois-tu les vaches? Ils sont aussi élevés. On est d'accord. Dans des petits clos, des petits enclos comme ça, on les nourrit
lesquels,
avec
hein.
des choses. Bon bah ça dépend. Hein.
Ça dépend lesquels.
Ouais, je vois pas ce que ça améliore, hein, parce que quelque part,
On ne manque pas de lait.
C'est sûr, on manque pas de lait, mais bon...
C'est la qualité...
Ni de viande.
Ouais, la qualité peut-être du produit qui est...
Oui, ça influence sur la qualité.
Là, on est passé quand même d'une question éthique, parce qu'on prend des vies quand même, parfois en utilisant des méthodes assez dramatiques, à une question d'alimentation. Ouais, mais sinon, on n'a pas notre lait, tu vois. C'est un autre débat. Non, mais réellement, c'est un autre débat.
Non, pour moi, c'est le même débat. Combattre la faim dans le monde en gardant l'éthique.
Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on reste dans des pays quand même qui est censé ne pas avoir de problème d'alimentation. Je suis pas en Afrique où là le problème c'est de le problème
oui,
à régler,
mais,
c'est
la faim en
les
Afrique
gens.
Ne c'est pas forcément la faute des Africains, c'est peut-être justement la faute des Français qui consomment trop.
Oui, jusque là on est pas sûr.
Voilà.
Je vois pas,
l'Afrique c'est assez large, hein,
oui.
C'est
oui.
Oui, j'ai pas compris le rapport, mais c'est vrai que
si tu parlais de la faim dans le monde.
Oui.
Donc, je réponds.
C'est vrai, je parlais de la faim dans le monde, surtout dans les continents, sur le continent africain ou en Asie du Sud-Est, où là, par exemple, on ne peut pas leur reprocher d'essayer de se nourrir de ce qu'ils ont. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, j'étais plutôt sur une question éthique dans un pays où on a de quoi manger et on peut faire autrement. C'était plutôt
ça,
là.
Ça, c'est sûr.
Mais si on interdit la pêche électrique, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire peut-être d'autres méthodes comme, je ne sais pas si vous connaissez, les scènes tournantes? C'est des filets de 1 à 2 km qu'on met dans l'eau et qui se referment pour former un immense tube jusqu'à des 240 mètres de profondeur. Voire
c'est pareil, ça détruit
oui,
des fonds marins.
C'est de la surpêche, là. C'est...
Ça prend tout le monde, voilà. C'est une question de quantité. Je pense qu'on peut prendre à la nature une certaine quantité de choses. On a fait ça depuis que tous les animaux tuent d'autres animaux ou mangent d'autres plantes pour survivre. Ça, c'est normal. Le problème, c'est une question de quantité et une question de méthode, je pense. C'est surtout ça, le problème.
Et du coup, concrètement, comment on répondrait à cette problématique parce que les pêcheurs veulent, enfin c'est normal, ils veulent garder leurs emplois, etc. Enfin,
ah non, mais oui, je,
concrètement,
c'est
je veux dire.
C'est tout à fait normal, ça. Mais le problème, c'est plus une question... le problème est toujours un peu plus en amont. C'est-à-dire que s'il y a autant de pêche, et autant de pêcheurs par ailleurs, c'est quelque part, il y a une demande. S'il y a toujours cette demande, on pêchera toujours autant. Mais le problème, c'est qu'à force de faire ça, les fonds marins sont détruits, il n'y aura plus de poissons, et on a l'impression d'attendre le fait qu'il n'y ait plus de poissons pour arrêter d'en consommer. Alors qu'on pourrait tout simplement limiter la consommation et perpétuer la pêche.
Donc la solution serait donc de limiter notre consommation de poissons.
S'adapter à notre monde.
Très bien, je vois qu'on nous fait signe à la régie. Non, non, bah
non,
très bien.
C'était moi qui faisais signe. En mode, je veux parler. Non, en fait, je me demande aussi s'il n'y a pas une question concurrentielle avec les autres pays. Parce que c'est vrai qu'il y a de la demande, donc il y a beaucoup de pêcheurs, de pêche, hein, mais la régie font n'importe quoi. Donc oui, enfin, il y a aussi une question concurrentielle parce qu'il y a des pays qui ont un quota de pêche plus grand que la France, et du coup, ben la France veut être dans les meilleurs, tout ça, et c'est pour ça la surpêche, je pense, plus que la consommation, parce que la consommation, on a presque trop de poissons. Enfin, il y aura toujours du gâchis, et puis je suis sûr qu'on exporte aussi. Et donc, enfin, je pense que le souci, c'est surtout concurrentiel.
Je sais pas si on prend ça vraiment comme un jeu. C'est pas spécialement amusant.
Ah, pas un jeu, une concurrence, c'est différent.
Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu comme un autre.
Je n'aime pas la
concurrence.
D'essayer
d'être le meilleur. À la limite, au niveau économique, pour son rayonnement, je veux bien, mais au niveau de la pêche des poissons, si on ne mange pas de poissons, on n'a pas à être le premier en pêcheur de poissons. Si dans les pays du Nord, ils pêchent plus que nous, c'est forcément qu'ils en ont plus besoin. Parce qu'on n'est pas en manque en poissons. Non mais réellement.
Actuellement, non.
Donc ça sert à rien de concurrencer si on augmente le nombre de poissons qu'on essaye de récupérer et qui ne servent à rien, c'est un jeu.
L'export. Oui, exporter poissons.
Oui, on peut après étendre, comment dire, le champ de vision. Mais ah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire vendre le poisson à des pays qui n'ont pas de quoi se...
Pas forcément, mais juste au moins, histoire de faire des plus gros chiffres.
Ah oui, là, en étant bien le champ de vision, là. là, on rentre sur des problématiques de mondialisation, là.
Bah,
ça va loin, là.
En parlant de concurrence, c'était exactement ça. On a mis les pieds.
Moi, j'étais vraiment sur une question alimentaire, ouais, c'est vrai.
Non, moi, j'étais sur le concurrentiel.
Si on commence à partir vers le capitalisme...
Bah, je me demande si la surpêche n'est pas aussi due à ça. La consommation et la concurrence.
Donc maintenant, on relève un autre problème, le capitalisme.
Et est-ce qu'on devrait peut-être garder ce système, mais fortement le limiter en cadrant avec des lois ? Par exemple, en limitant, en donnant une limite à la profondeur de... Parce qu'on sait que, globalement, plus on va sous l'océan, plus les poissons mettent du temps pour se reproduire. Je tiens, pour exemple... l'empereur qui se reproduit seulement à ses 20 ou 30 ans.
Donc, essayer de.
Est-ce que, oui, de
la
mettre
faune,
des petites.
Des profondeurs.
Des lois par-ci, par-là pour.
Ah, mais c'est sûr, non, mais il faut faire la même chose dans la mer que sur la terre. Dans le ciel d'ailleurs.
Pourquoi vous rigolez?
Non, je sais pas. J'ai un fou rire en regardant en face, ils nous fixaient tous, c'est tout.
Bon, à la régie, s'il vous plaît, ne déconcentrez pas les professionnels, nous sommes en pleine démonstration.
Non mais c'est moi, c'est pas eux, c'est moi. Je sais pas, j'ai eu un moment comme ça.
Un moment de flottement, ça arrive à tout le monde.
C'est ça.
Donc voilà, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ?
Anna, tu n'as pas encore parlé.
Oui. Je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet.
D'accord.
Pour ou contre, non, neutre.
Neutre.
Sur la
neutre.
Pêche électrique.
Pas. Ne se prononce pas.
Ne préfère pas se prononcer.
Vote blanc.
No comment.
Allez, bon, bah, du coup, on va laisser la parole à la régie pour une musique, je ne sais pas.
Pour nous cadrer.
Théo,
à vous la régie.
Non. Ah bah non, bah alors au revoir.